Je vous propose d'ouvrir la parole et on va lire un texte. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, je dirais que c'est un texte qu'on lit souvent d'ailleurs, mais on réalise peut-être pas toujours ce qu'il veut dire. Alors selon les différentes versions, on n'a pas forcément les mêmes termes. Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je le relis. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà, j'ai fini. C'était un peu court. Mais encore. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus n'était pas quelqu'un qui était guidé par ses émotions, mais il avait des sentiments intérieurs qui étaient bien forts. Et M. Gault disait tout à l'heure qu'il ne dédaigne pas le malheureux. Qu'est-ce qui fait que finalement le Seigneur ne dédaigne pas le malheureux? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de son cœur, battait, qui faisait que finalement ça faisait bouger son bras, sa main, qu'il allait donner une parole, qu'il encourageait, qu'est-ce qui était là à l'intérieur? Quel sentiment l'habitait? C'était l'amour. L'amour. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est, je suis heureux, c'est un mot qu'on a déjà pas mal entendu ce matin, c'est un sentiment qui était intérieur au Seigneur. Et l'apôtre Paul nous encourage à nourrir ce sentiment-là, à avoir le même sentiment, les mêmes. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a plusieurs sentiments, parce que c'est écrit « les sentiments » ou « les pensées ». Les sentiments, c'est quelque chose qui est sur le long terme. Par exemple, quelqu'un va vivre un moment difficile avec quelqu'un, ça va déclencher quelque chose, peut-être de la colère sur le moment ou de la tristesse. Mais le sentiment, c'est quand sur la durée, je vais nourrir ça par mes pensées. Et ça, dans la durée, ça va durer très longtemps. Un sentiment intérieur, ça peut durer toute la vie. Un sentiment de colère, si je le nourris, il peut durer toute la vie. Un sentiment d'amour, de la même manière, si je le nourris comme il faut, il peut aussi durer toute la vie. Qu'est-ce que je fais finalement de ce qui m'arrive, des émotions que je ressens, comment je les interprète, et derrière, quels sont les sentiments de mon cœur? L'apôtre Paul nous dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Oui, quand on l'a frappé, quand on l'a injurié, il s'est laissé faire. Et il n'a pas nourri aucune colère, aucune amertume, aucune tristesse, parce que il réagissait, il vivait aussi des émotions, de la souffrance, de la douleur, des émotions qui étaient là, qui étaient humaines, mais pourtant, les sentiments qu'il avait, eh bien, il le gérait bien. J'aimerais lire un deuxième texte avec vous, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, qui résume aussi la prédication. Chapitre 9, verset 7. Pensons au Seigneur Jésus avec ce verset. Pensons au Seigneur Jésus, à ce qu'il a fait. Et là, ce verset nous donne bien finalement les sentiments qu'il y avait dans son cœur. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le Seigneur, il s'est donné avec joie. Il est allé jusque sur la croix avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce que Dieu dit pour nous était valable pour lui. Et ça, c'est des choses qu'on a tendance à oublier quand on dit « tu ne mentiras pas ». On oublie de penser que si Dieu nous dit de le faire, c'est parce que lui le fait. Il nous dit toujours la vérité. Ici, Dieu aime celui qui donne avec joie. Autrement dit, lui s'est donné avec joie. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ce verset nous parle de don, et nous parle d'amour, et nous parle de joie. Un don par amour désintéressé, j'ai mis entre parenthèses, donné avec joie. Revenons aux Philippiens. On va continuer cette étude, on va aller un peu plus loin. Dans les Philippiens, il y a plusieurs choses qui ressortent. Et on va lire un peu plus loin dans le chapitre 2. Et là, j'en arrive à la pensée qui a frappé mon cœur cette semaine, en pensant à vous. Philippiens 2, 19 à 21, l'apôtre Paul donne de ses nouvelles et il va écrire ceci. Philippiens 2, 19 à 21, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. » Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Je lisais dans la version Parole Vivante. Je vais vous le relire dans la version Parole Vivante. Le Seigneur Jésus m'encourage dans l'espoir de pouvoir bientôt vous envoyer Timothée pour prendre de vos nouvelles. Cela me tranquilliserait et renouvellerait mon courage. Et là, la phrase m'a percuté en plein cœur. Timothée est le seul ici qui partage mes sentiments et porte avec moi un réel intérêt pour vous. C'est dur quelque part. Il n'a qu'une personne sur qui il peut compter pour pouvoir secourir les Philippiens dans leurs besoins. Mais là, je me suis dit, il est où pour écrire ça, Paul? Est-ce que vous savez où est-ce qu'il a rédigé cette lettre aux Philippiens? En prison. Et il y a un lieu qui ressort un peu du lot quand il écrit cette lettre, c'est qu'on pense qu'il est à Rome. On s'accorde pour dire qu'il était à Rome. Quand je repense à ce que Paul écrit, Timothée, c'est le seul que Paul puisse envoyer à Philippe de Rome. Timothée, c'est le seul digne représentant de Paul aux Philippiens. Et l'apôtre Paul écrit qu'à Rome, chacun pense à lui et à ses affaires personnelles. Le bilan de l'Église dont il a la charge, quand on lit juste ces quelques phrases, il est assez lourd, je trouve. Avant d'aller plus loin sur ce que Paul dit au sujet de Rome, relisons juste les quatre premiers versets de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. De quel sentiment il parle? Eh bien, on a un bon petit résumé sur les quatre premiers versets, pour arriver finalement à la voie royale, qui est Philippiens 2,5, « Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Mais les quatre premiers versets nous décrivent un peu plus. « S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Pensons à la situation qu'il traversait quand il écrit ça, parce que pour écrire ça, il devait le constater. L'Église de Rome était en train de dégringoler, je dirais, de ce vers quoi elle était destinée. Quand on regarde l'Épître aux Romains, on lit autre chose. Je vous cite Romains, chapitre 1er, verset 8. Cette épître-là, elle a été écrite 5-6 ans avant celle des Philippiens, à peu près. 5-6 ans avant. Et quand Paul évoque Rome, les chrétiens de Rome, il ne tarit pas d'éloges. Et d'ailleurs, il suffit simplement que vous avez remarqué quand même dans les lettres de Paul, il y a l'épître de Paul aux Romains et les autres. Vous avez remarqué que ce n'était pas pareil. Le style, le contenu, la teneur de la lettre de Paul aux Romains est tout autre que celui des autres lettres. À Rome, il y avait des pointures. Et l'apôtre Paul a écrit à des pointures. Il a écrit à des gens, il s'est adapté au niveau de ceux qui l'écoutaient. L'apôtre Paul écrit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu, il n'avait pas connu l'Église, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Donc l'Église de Rome était une Église reconnue, renommée, c'était une Église bénie de Dieu, il faut le dire quand même. C'était une Église bénie de Dieu. Il y avait beaucoup de prédicateurs. Et pourtant, on voit dans la lettre aux Romains, quand on lit le chapitre 14, que peut-être Paul commence à sentir un petit problème qui n'a pas encore éclos, mais qui pourrait éclore. Alors il écrit aux Romains, « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Il écrit un peu plus loin, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. » Il y avait à Rome des personnes qui avaient une bonne connaissance des Écritures. Il y avait à Rome des personnes qui étaient bien affermies dans la foi. Et il y en avait d'autres aussi qui venaient des Juifs et qui connaissaient parfaitement, je dirais, tout l'Ancien Testament. Il y avait tout ça. Comment l'emprisonnement de Paul a été interprété par les uns et les autres? Certains ont peut-être vu un jugement de Dieu parce qu'ils commençaient à dire des choses qui dérangeaient. D'autres ont plutôt vu que c'était une épreuve que Dieu avait permis et que c'était une manière, comme l'apôtre Paul l'écrit aux Philippiens, que ça allait contribuer au progrès de l'Évangile. Il y avait une divergence d'état d'esprit. Et finalement, quand on regarde ce que Paul écrit aux Philippiens au sujet de ses compatriotes à Rome, il écrit ceci, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » Il y a cette rivalité, ces divergences. C'était peut-être pas comme ça à l'origine, mais finalement, il y a eu, c'est arrivé, ces divergences, ces avis qui étaient différents, et puis des petits groupes qui peuvent dire « moi je ne suis pas d'accord avec ceci, moi je ne suis pas d'accord avec cela ». Et finalement, alors que l'Église était super bien assise dans la connaissance, il y avait des failles qui s'étaient là, et il y avait des groupes qui se formaient, il y avait des rivalités. Et pourtant, c'est une Église, quand on lit le premier chapitre de Paul aux Philippiens, l'apôtre Paul dit « qu'importe, l'Évangile est annoncé ». Il se réjouit quand même. Donc c'est une Église qui, malgré ses rivalités et ses combats intérieurs, avait le souci quand même d'évangéliser, d'annoncer la parole. Pour certains, il y avait de mauvais motifs, pour d'autres, ils étaient bons. Mais quelque part, le Seigneur nous montre ici qu'à travers l'affaire des Romains, on peut tous tomber. Quelle que soit la connaissance que j'ai, quelle que soit le bagage que je peux avoir, eh bien, on peut tous glisser. Et tout aussi bien était cette Église à l'origine. L'apôtre Paul, ce qu'il écrit aux Romains devait être absolument vrai, l'Église était saine, etc. Et pourtant, finalement, ils se sont montés les uns et les autres, les uns contre les autres, hélas, et ils se sont divisés. Ils travaillaient tous pour un même but, mais pas avec les mêmes intentions. Moi, ça m'a fait réfléchir quand même. Certes, je parle des prédicateurs, mais on va le voir, on est tous des prédicateurs. Je ne sais pas si on réalise que nous sommes tous des prédicateurs. Quelle prédication je prêche dans ma vie de tous les jours? C'est vrai. Il y a des prédicateurs qui prêchent la parole sur l'estrade, mais dans notre vie de tous les jours, on est tous des prédicateurs. Donc n'y voyez pas, n'y croyez pas que je vise simplement les responsables dans ce que je dis. Moi, j'ai réfléchi et je me suis dit, finalement, ces Romains-là, ils avaient beaucoup de connaissances. Ils étaient au top concernant la doctrine. Et j'ai pensé à ce texte qu'on peut lire ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 8. Et on va aller doucement vers les objectifs de cette prédication. On va glisser. Je voulais quand même dresser ce contexte pour qu'on puisse bien comprendre la situation et comment Paul écrit aux Philippiens, dans quel contexte il écrit aux Philippiens. Cet épître de la joie, d'ailleurs. 1 Corinthiens, chapitre 8, au verset 1er, je lis les 3 premiers versets. « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » La connaissance enfle. Alors, le médecin qui est parmi nous pourra éventuellement me reprendre si je me trompe. Mais il me semble que quand quelque chose enfle, ça grandit, pour arriver, ça grossit, mais ça, c'est anormal. Si vous avez la cheville qui enfle, eh bien, elle enfle, mais c'est pas comme ça qu'elle devrait être. Elle a grossi, mais... c'est anormal. Quand on a la tête qui enfle, eh bien, pour des personnes hydropiques, je dis ça par exemple, ça arrive, hein, quand on a insuffisance cardiaque, on enfle. On devient énorme même. Et enfler, c'est grossir. Mais pour arriver à un état qui est anormal, la connaissance enfle. C'est bien de connaître. Mais où est-ce que ça m'amène? Ce que la Bible dit, c'est que l'amour édifie. C'est bien d'avoir la connaissance, mais ce n'est pas le principal. Pourquoi est-ce que je veux connaître? On a les réunions de responsables le jeudi soir. Pourquoi est-ce que j'y vais? Pour avoir de la connaissance? Dans ce cas-là, on est dans un problème de connaissance qui va enfler et qui ne me servira à rien et qui ne servira à personne d'ailleurs. Mais est-ce que c'est l'amour qui fait que je vais vouloir aller? Pourquoi est-ce que je passe du temps devant Dieu? On peut poser la question, se poser la question. Est-ce que quand je lis ma Bible, je veux ajouter de la connaissance à ma connaissance? Ou est-ce que je veux avoir un vrai moment d'intimité avec Dieu? Qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que c'est l'amour? Ou est-ce que c'est le devoir? J'aimerais citer cette anecdote où une personne visite une autre. Et puis... la personne qui a été visitée dit ceci: « Ah, ça m'a vraiment fait plaisir que vous veniez me voir. Merci d'être venu. » Et la personne visitante dit ceci: « Ah, mais vous savez, je n'ai fait que mon devoir. » Est-ce qu'elle a bien répondu? Ben non. Parce qu'elle n'a pas honoré la personne. Elle a honoré son devoir. Elle a honoré le fait qu'elle ait réussi à faire son devoir. Donc elle s'est honorée elle-même. Elle n'a pas honoré la personne qu'elle a visitée. Vous avez vu l'importance de ce qu'on peut dire. Je n'ai fait que mon devoir. Mais on se glorifie nous-mêmes quand on dit ça. Par contre, si on dit « Non, mais ça m'a vraiment fait plaisir de passer ces petits moments avec vous. Je me suis réjoui d'être avec vous. » Là, on honore la personne. Et là, qu'est-ce qui ressort? Le devoir? Non. Ce qui ressort de cette réponse, c'est l'amour. Parce que finalement, ce qui m'a amené chez la personne, ce n'est pas le devoir de faire des visites. C'est l'amour des personnes que je vais voir. Ça me fait penser à ce que Jacques écrit. On peut le lire ensemble. Jacques, chapitre 2. Je vais vous le lire dans la version du Semeur, parce que j'aime bien cette version. Jacques, chapitre 2, verset 14. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements. et n'aient pas tous, tous les jours, quelque chose à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit !» sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Là, Jacques parle de la foi, mais on peut très bien parler de l'amour. Ça peut très bien se... D'ailleurs, vous connaissez ce chapitre de l'amour, 1 Corinthiens 13. Il y a quelque chose qui me déçoit, même si c'est plus poétique. Avant, je n'aimais pas ce terme, parce que ça connotait les bonnes œuvres. Mais le mot d'origine qu'on a en français, c'est la charité. La charité est patiente. La charité est serviable. La charité n'est pas envieuse. Elle ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Enfler, orgueil, connaissance. La charité, c'est quoi ? C'est quand l'amour qui est à l'intérieur se matérialise. Je le redis, la charité, c'est quand l'amour que j'ai à l'intérieur se matérialise. Autrement dit, si on lit l'amour, quelque part, c'est pas tout à fait juste, parce que ce que veut dire l'apôtre ici, c'est quand je matérialise ce qui est à l'intérieur, que je vis vraiment ces choses. C'est facile de dire l'amour supporte tout. Alors, l'important, c'est quand ça se matérialise. Quand ça arrive, qu'il faut supporter quelque chose. Et puis que là, on se pose la question, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas ? L'amour supporte tout. Mais le mieux, c'est encore la charité, parce que c'est ce que je vais faire en l'intérieur, ce que je vais vivre, qui va montrer que j'ai l'amour. C'est quand je matérialise ces choses. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est peut-être mieux. On est tous d'accord. On est tous des prédicateurs. Quel message on prêche ? Qu'est-ce que voient nos proches, nos voisins, nos collègues de travail ? Est-ce qu'ils voient des gens qui revendiquent pour tout et pour rien ? Est-ce qu'ils voient des gens qui râlent tout le temps ? Est-ce qu'ils voient des gens qui ont des regards bienveillants, qui ont un sourire ? Ou des gens qui font leur devoir ? Des gens très ordonnés qui font leur devoir, mais qui en oublient peut-être un peu de sourire, qui en oublient peut-être un peu de vivre aussi. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ça me fait penser au Seigneur Jésus, vous savez, quand il se retrouve avec cette réflexion, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» Jésus explique qu'il n'est pas obligé, qu'il est dans son droit. Et pourtant, il ne va rien revendiquer. Il va payer. Il va payer. Il fait le choix de payer. Pourquoi ? Pour ne pas scandaliser. Donc derrière, son mobile, c'est le sentiment qu'il a à l'intérieur, c'est quoi ? C'est l'amour. C'est toujours la même chose. On tourne autour du même sujet. C'est l'amour. Et si Jésus, bien qu'il était dans son droit, n'avait pas payé les 2 drachmes, il aurait scandalisé, parce que sinon il n'aurait pas dit « je vais les scandaliser si je ne paie pas ». Donc si Jésus n'avait pas payé, il aurait scandalisé son frère et sa sœur. Et il serait rentré en contradiction avec ses propres paroles, qui dit « heureux celui qui n'est pas une occasion de chute ». Donc, si Jésus n'avait pas payé, bien qu'il était dans son droit de ne pas payer, il aurait commis un péché. Il aurait commis un péché. Des fois, il nous faut réfléchir. Qu'est-ce qui, à l'intérieur, me motive ? Pas au sens de ce qui me donne envie, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ce que je fais, de ce que je vis ? Le verset 3 qu'on a lu dans 1 Corinthiens, il était dit « Celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. » Vous savez, quand on demande au Seigneur quel est le plus important des commandements, il n'a pas dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si je dis ça, c'est pas juste. Parce que ça va me pousser à aimer les gens avec mon amour personnel. Cet amour humain, cet amour intéressé. Non, Jésus, il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. De cet amour-là, eh bien, va pouvoir découler le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi ? parce que c'est en aimant Dieu de tout mon cœur que je vais recevoir. On l'a chanté tout à l'heure, l'amour nous est donné. Et on ne peut pas aimer des fois certaines personnes, ce n'est pas possible. Humainement parlant, il y a des fois des situations qui font qu'on ne peut pas aimer certaines personnes. Et si on essaye de les aimer par nous-mêmes, on passe à côté. Celui qui veille de tout son cœur à cette relation avec Dieu, il va recevoir de Dieu l'amour qui lui servira à aimer n'importe qui. Cet amour inconditionnel, cet amour désintéressé. Et là, on arrive vraiment au nœud du problème. On cherche à aimer notre prochain sans aimer Dieu. C'était un peu le problème des Romains à l'époque, finalement, où il y a des rivalités, etc. C'est très subtil, mais quand on commence à oublier le principal, eh bien, on essaye de servir, on essaye de faire tout ce qu'on peut, mais c'est à la sauce purement humaine, et ça ne peut pas marcher. On essaye d'aimer notre prochain, mais on n'aime plus Dieu. On va essayer même de servir Dieu, de prêcher l'évangile peut-être, mais sans aimer Dieu. On va essayer d'avoir une relation humaine, une relation d'amour avec Dieu, mais c'est une relation intéressée, parce qu'il nous donne. On sait qu'il nous donne, alors on veut des bénédictions, on veut tiens, voilà. Alors Seigneur, je t'aime, mais tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? C'est un amour par intérêt. Et finalement, quelque part, aimer Dieu simplement pour ce qu'il donne, moi j'appelle ça du mépris. Parce que s'il avait agi comme ça avec nous, je pense qu'il n'y aurait personne ici qui serait sauvé. Parce qu'on ne peut rien donner à Dieu. Il y en a même qui espèrent être au paradis sans même se soucier de qui est Dieu de leur vivant. Quand bien même ce serait possible, la personne serait quand même mal à l'aise. Je ne sais pas. Mais... Vous espérez vivre avec quelqu'un pour l'éternité, mais pendant tout le temps de votre vivant, vous le méprisez, vous lui faites des coups bas, et puis et vous espérez un jour être auprès de la personne pour l'éternité. Ça risque de mal se passer, en fait. Je crois qu'on ne pourra être heureux auprès de Dieu dans l'éternité que si de notre vivant on s'est soucié d'avoir de l'amour pour lui. Et le problème, c'est ça. L'église des Romains, elle avait perdu quelque chose que nous pouvons lire dans l'Apocalypse. Elle a perdu, peut-être pas l'amour des âmes, mais elle a perdu quelque chose de bien plus important. C'est l'église d'Éphèse. Elle a perdu l'amour le plus important. Elle aimait encore les âmes parce qu'elle faisait de l'évangélisation, l'église. Elle travaillait, elle faisait des tas de choses pour Dieu. Mais il y avait des rivalités qui faisaient que finalement, eh bien, le principal avait disparu et Dieu ne pouvait pas approuver. Dieu ne pouvait pas approuver. Apocalypse 2, verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Là, on peut penser à l'église de Rome. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Il y a de la connaissance. Il y a de la connaissance pour en arriver là. Il y a de la connaissance. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Autrement dit, ils étaient capables de savoir lesquels étaient les vrais. Ça va quand même. C'est bien quand même, je trouve. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert. Pourquoi je souffre d'ailleurs ? Ça va loin quand même. Hein ? Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Lequel est l'amour numéro un ? C'est pas mon frère, c'est pas ma sœur, c'est pas mes parents, c'est Dieu. Mon premier amour, c'est Dieu. Et on peut essayer d'aimer ceux qui sont autour de nous. On peut essayer d'aimer notre Église. On peut essayer de servir. On peut essayer d'évangéliser. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais si on perd l'amour de Dieu, on est à côté. On est à côté. Il nous faut travailler là-dessus. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Autrement dit, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce qui motive ma vie, ça ne doit pas être de servir, d'accomplir mon devoir, ou même d'aimer ceux qui sont autour de moi, mais je le fais par amour pour Dieu. C'est pour Dieu que je le fais. Je fais pour sa, c'est sa gloire à lui que je cherche, et rien d'autre. Mais si je le fais pour Dieu, par extension, l'amour de Dieu fait que je vais me tourner naturellement vers les autres, je vais servir naturellement. Tout le reste viendra naturellement. Mais en premier, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et vous savez, quand on rentre là-dedans, on a chanté aussi tout à l'heure que tu te plais à nous bénir. Les questions de Dieu. Est-ce que vous ne croyez pas que ce que Dieu vit, on peut le vivre aussi? Avoir du plaisir même à donner. Avoir du plaisir à servir. Qu'est-ce qu'on peut donner? On peut donner de l'argent, certes, mais on peut donner plein de choses à Dieu. On peut donner plein de choses à l'Église. On peut donner du temps, on peut donner des compétences, on peut donner des tas de choses. Tu te plais à nous bénir. Et Dieu n'est pas contre. Au contraire, si lui prend plaisir à bénir, eh bien, ce ne sera qu'honorer Dieu que de prendre plaisir à bénir. Si je prends du plaisir à faire ce que je fais, si je prends du plaisir dans les œuvres dans lesquelles je suis inclus, si je prends plaisir, alors, je ne suis pas en train de vous donner un commandement. Ce plaisir, il ne pourra venir qu'à partir du moment où la première condition est établie. C'est-à-dire que je fais les choses pour le Seigneur, pas pour moi, pas pour que le service il tourne, pas pour combler les trous, parce que si je ne le fais pas, ça ne va pas marcher. Non, si ce qui me motive, c'est l'amour de Dieu, eh bien le Seigneur va me permettre, et ça viendra de lui, que quand on fait les choses pour le Seigneur, non seulement il nous donne le plaisir de le faire, mais en plus il nous donne bien au-delà de ce qu'on pourrait même espérer. Et il y a quelque part, quand on prend du plaisir, ben derrière, il y a de la joie. Il y a de la joie. La joie, ça ne se commande pas. Quand on lit, c'est vrai, souvent je l'ai lu, quand l'apôtre Paul il encourage les Philippiens, il dit « Réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous, soyez dans la joie, etc. » Si on le prend comme un commandement, on pourrait se dire « Mais oh, la joie, ça ne se décrète pas quand même. » Moi, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent pensé. Je suis peut-être le seul. La joie, ça ne se décrète pas. La joie, c'est la conséquence d'un plaisir qu'on va prendre. Autrement dit, pour que je puisse me réjouir dans le Seigneur, on en revient encore à la base, veille sur ton amour avec Dieu. Parce que finalement, si je veille à mon amour avec Dieu, que mon amour soit au beau fixe avec Dieu, tout ce que je fais, tout ce que je vais dire, elle sera empreinte de ce qu'il veut que je fasse, de sa volonté, je vais y prendre plaisir. Mais quand on prend plaisir à quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la joie. Et il y a de la joie. Et finalement, cette joie, c'est cette joie-là qui va nous pousser derrière à agir. Je me rappelle, cet été, avec les enfants, on est allé dans un parc d'attractions. Non, même pas, c'était Cap Découvert, je crois. Et on était allé se baigner, il y avait le trampoline, il y avait tout ça, etc. Et puis ils étaient contents de leur journée. Ils avaient pris plein de plaisir dans la journée. Mais quand on s'est retrouvés à l'église, ils allaient le raconter à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pleins de joie. Mais quand on est plein de joie, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir aller. Mais si je n'ai pas la joie avant, mon message il va peut-être sonner creux. Si, alors que je transmets la bonne nouvelle de l'Évangile, il y a en plus le sourire et ce côté convaincant que nous donne la joie, eh bien la personne qui va nous entendre, elle va réfléchir d'autant plus que si je lui apporte un dogme avec midi et demi, elle va me prendre pour un religieux, une religieuse, et finalement ce que j'aurais voulu transmettre ne sera pas transmis. la joie qui nous pousse à agir. La joie d'avoir reçu de Dieu nous pousse à le partager. Je vous cite ces passages. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore, et une personne en a parlé dans les prières, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Donc, vendre tout ce qu'il a sous-entend des contacts, sous-entend des choses, et il y a une joie qui va s'exprimer, qui va s'expliquer, et il achète ce champ. Un autre verset, Actes 12, 14. Il sort de prison, elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle court annoncer que Pierre était devant la porte. La joie qui nous pousse à aller partager. Jean 4, 28, 29. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» La joie, elle va nous pousser à aller vers les autres. Ceux qui ne connaissent pas, parce que la joie, on veut la partager. C'est bien de vouloir évangéliser. Mais si on fait que de ce désir, sans nourrir cette relation avec Dieu, ça ne pourra pas marcher. Je n'aurai pas cette joie communicative qui va me permettre justement de convaincre. Il est écrit dans la parole, la joie de l'Éternel sera votre force. Donc c'est une force quand on est joyeux. Effectivement, ça ne se décrète pas, mais ça se travaille. Ça peut se travailler. Si je nourris cette relation avec Dieu vraiment, je vais prendre du plaisir et je serai le cœur joyeux. Et la joie de Dieu, elle se communique. Toujours sur cette histoire de la Samaritaine, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, de Jésus, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Autrement dit, quand je vais aller vers l'autre, mais avec cette joie que Dieu m'a donnée, encore une fois, ce n'est pas une joie que j'ai moi-même, c'est une joie que Dieu me donne. Quand ça vient de Dieu, ça déborde. Et on va voir les autres et ça se sent. Et finalement, c'est là que la bonne nouvelle est authentique. Parce qu'elle vient directement du ciel. Quand on se rend service, par exemple, je reviens à l'amour pour imager. Quelqu'un a un besoin. Une autre personne sans le savoir. Parce qu'elle nourrit cette relation avec Dieu. Toujours pareil. Elle va être mise au courant du besoin, ou même en étant mise au courant naturellement, ça peut arriver. Bien plus souvent d'ailleurs que l'autre cas. La personne qui décide dans son cœur d'honorer Dieu et qui se dit, mais tiens, il y a ce besoin-là, mais je vais y répondre. La personne qui va recevoir, elle a prié de son côté, Seigneur, tu vois le besoin que j'ai. Tu connais les filles, tu sais qu'on veut te servir, etc. Vraiment une prière qui vise aussi à aimer Dieu. Et voilà que la personne que Dieu a suscitée va pouvoir aller vers celle qui a le besoin et va répondre au besoin. Qu'est-ce qui va se passer? Une joie extrême. Pourquoi? Parce que d'un côté, celui qui a donné, il a fait tout son cœur parce qu'il a reçu ce commandement de Dieu. Il le sait, alors il sait qu'il va donner de la joie à l'autre personne. L'autre personne, elle va se réjouir de ce que Dieu ait répondu à sa prière. Et qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Il va y avoir des liens qui vont se tisser, des liens d'amour qui se tissent. Parce que finalement, Dieu a pu utiliser l'un. Il s'est servi du besoin de l'autre. C'est comme ça qu'il édifie, en fait. Il y en a un qui a un besoin, il y a l'autre qui peut répondre au besoin. Finalement, il se laisse travailler par Dieu, il va répondre au besoin. Donc, tac, il se met à côté de l'autre et les liens se tissent. Il y a le ciment entre les deux briques. Les deux briques se retrouvent alors posées l'une à côté de l'autre, jointes par ce ciment qui est l'amour. Parce que finalement, l'amour qui est à l'intérieur, je pourrais dire, John, je t'aime. Mais si ça reste là, il n'y a pas le ciment encore. Si par contre un jour je suis au courant d'un besoin qu'il a et puis que j'y réponds, il va y avoir quelque chose de plus fort. Il va y avoir ce ciment qu'il a qui fait que les deux pierres vivantes que nous formons seront reliés et seront solidement reliés. L'importance de l'amour de Dieu. Non, je ne dois pas aimer mon prochain. Non, je ne dois pas servir l'Église. Je dois aimer Dieu. Et de ce commandement va découler tout le reste. Où est-ce que j'en suis dans ma communion avec Dieu? Est-ce que mes sentiments sont ceux de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils sont ceux de Jésus-Christ?